Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par un scénariste. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 81. Et aujourd'hui, nous parlerons de pilotes d'avion et d'amitié virile torse nu, puisque nous aborderons Top Gun. C'est Guillaume au micro, et pour parler de ce film, j'ai autour de moi mes avions de chasse personnels, à savoir Armand, Marie et Sarah. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole. Immédiatement, Top Gun 2 donc est écrit par Aaron Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie. Alors commençons par les personnages, et donc évidemment Pete Mitchell dit Maverick. Alors j'ai une question pour vous, est-ce que son seul défaut, c'est pas avoir fait d'enfant, parce qu'un homme parfait comme ça, ça doit se reproduire, c'est pas... Non, Marie ?
Ah, mais je trouve qu'il n'est pas parfait, justement.
Ah bon ?
Il est quand même très bien caractérisé dans cette scène où il fait exploser son avion par... voilà, il a trop d'ambition, trop d'orgueil, il veut aller trop loin. Et au final, il le dit qu'il a fait, il s'est fait virer de tous ses postes en 30 ans. Et à chaque fois, il a été repêché par un ami qui lui a sauvé son cul. Donc en fait, je trouve pas que ce soit un personnage... parfait. Alors oui, il réussit totalement. Enfin, il réussit sa mission. Voilà, et là où la mission est impossible, grâce à lui, ça va fonctionner. Mais je trouve qu'on nous présente un personnage avec des failles, quand même.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé le petit côté has-been au début du mec qui est toujours resté capitaine et qui a jamais monté les échelons.
Mm-hmm.
Après, c'est vrai qu'il en a pas beaucoup d'autres défauts, à part peut-être d'avoir une relation un peu déplorable avec cette femme dont il a pu être amoureux, et on voit qu'il l'a fait souffrir, donc il a quand même des bagages, quoi.
Ouais, ok, enfin, je vous trouve quand même sympa, ce mec, il est quand même... Tout le principe du film, c'est quand même de dire qu'il doit former des jeunes pour une mission extrêmement dangereuse, lui est censé être l'ancien et tout ça, et puis finalement, à la fin, c'est lui qui réussit tout. Enfin, c'est
oui,
quand même Dieu personnifié.
Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas du tout dans la transmission, il n'a pas du tout envie d'être prof. Il n'a pas envie d'être prof, et il y a une scène qui est assez émouvante avec son ami de toujours, qui lui dit, mais non, mais en fait, mon gars, il faut juste que tu raccroches. C'est trop tard, t'es trop vieux. Enfin, et d'ailleurs, il y a plein de scènes où, quand on lui présente cette mission suicide, et il dit, ah bah oui, bah, je pense que je peux le faire. Et on lui dit, non, mais on vous demande pas de la faire. Enfin, on vous demande juste d'être le prof. Vous êtes vieux maintenant, monsieur. Et en fait, je trouve que c'est quand même l'histoire d'un type qui a toujours voulu être le héros, a toujours voulu être dans l'action. Et c'est pour ça qu'il est toujours resté pilote, en fait, et qu'il n'a pas voulu monter les échelons. Parce qu'on sait que quand on monte les échelons, après, on a juste un poste de bureau. Mmh. Et donc, il a toujours voulu être dans l'action. Et il apprend à transmettre son métier, à transmettre sa passion et à être le meilleur prof possible. Et à la fin, il a accompli sa trajectoire, et il est prêt à... Pour moi, c'est quelqu'un qui apprend... Enfin, il devient prêt, à la fin, à raccrocher pour transmettre à la nouvelle génération.
Très bien. Armand, t'en as pensé quoi de ce Maverick?
Moi, j'ai trouvé qu'il était, oui, assez peu dépourvu de défauts.
Quand même.
Disons, en fait, le caractère vraiment casse-cou qu'il y a dans le début... où il crache un avion juste parce qu'il veut absolument dépasser le dépassement, mm-hmm. Ben, il ne paye pas des masses après, j'ai trouvé. Et c'est pas vraiment un danger. Voilà, on lui dit juste, bon, bah, t'as plus le droit de voler, mais en fait, si, t'as quand même le droit un petit peu de voler. C'est-à-dire qu'on lui redit quand même régulièrement que c'est le meilleur, il montre un peu tout le temps que c'est le meilleur. Donc le côté has-been, tu dois raccrocher les gants. On le matraque vraiment au tout début, quand effectivement il y a cette scène dans le bar où il arrive et que c'est le plus, voilà, qu'on lui dit c'est fini, mais en fait c'est l'objet d'une scène, et après je le sens plus trop dans la suite de l'histoire. Voilà, mais ça ne regarde que moi.
Après, je trouve que ça reste le personnage le mieux caractérisé du film,
le seul caractérisé dans le film.
Non c'est pas vrai.
Gentil,
attendez,
ça, Guillaume.
On va passer à comment elle s'appelle. Penny. Penny est une femme forte et indépendante qui élève son enfant seule et qui vit dans un milieu extrêmement masculin et qui est respectée par tout le monde et qui a son propre commerce.
Bah, elle, pour le coup, je trouve qu'elle n'a aucun défaut. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune casserole. Elle a une fille, ça se passe très bien. Elle a une très bonne relation.
Elle a couché avec un homme marié. Elle a couché avec un homme marié. Bah oui, parce qu'à un moment, Tom Cruise demande à sa fille « Et ton père, où est-ce qu'il est ?» Il dit « Avec sa femme, à Hawaï. » Ah, tu me dirais, il s'est peut-être remarié après.
Bah oui, pour moi, ils étaient divorcés, oui. Et voilà.
Exactement, pas de défaut.
Elle est très lisse. Mmh. Même si leur histoire d'amour est un peu touchante, je trouve que c'est vraiment... C'est dommage, ça aurait pu être beaucoup plus développé, peut-être plus conflictuel, en tout cas, entre eux. Parce que c'est quand même le seul rôle féminin un peu développé avec une des féminine, mais dont on sait très très peu de choses finalement. Je l'ai vu que c'est le personnage féminin, enfin le protagoniste féminin. C'est dommage qu'elle soit juste là dans son bar à sonner sa cloche et à partir faire de la voile avec sa fille. Et voilà, enfin on sait pas vraiment quels sont ses objectifs, quels sont ses problèmes. C'est enfin à part le fait qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui prend trop de risques et que c'est Tom Cruise, ouais, c'est un peu dommage.
C'est peut-être juste un personnage heureux, ça peut arriver aussi dans le film. Elle a. Ce que j'ai bien aimé dans ce personnage, c'est qu'elle arrive à être heureuse même sans Tom Cruise. Tom Cruise était un plus, elle n'attendait pas après lui. Elle était bien dans sa vie avant, elle est encore mieux dans sa vie après, mais même s'il était mort d'un accident, elle serait remise, elle n'est pas effondrée. Marie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage féminin ?
Ben, je l'ai trouvé qu'il manquait de caractérisation, effectivement. Et moi, j'ai trouvé surtout que ça a desservi cette histoire d'amour. Parce que, en fait, on nous parle de ce qui s'est passé. Un peu, ouais, ils ont eu une backstory, voilà, donc on apprend qu'il l'a fait souffrir, qu'il est parti. Enfin, en fait, on ne sait pas trop, mais j'aurais préféré que ce soit plus franc. S'il revenait dans ce bar et qu'il manque de peau, le bar où tous les jeunes pilotes vont, maintenant il est tenu par la meuf à qui il a brisé le cœur et qui le déteste. T'apprends que pourquoi il lui a brisé. En fait, on ne sait jamais pourquoi il lui a brisé le cœur.
Si, c'est sous-entendu, c'est parce qu'à chaque fois qu'il vit avec elle, il est appelé dans les conflits partout dans le monde. Elle dit t'es parti en Bosnie, t'es parti deux fois en Irak. Qu'à chaque fois que la mission l'appelle, il y va, il préfère les avions à elle.
Oui, mais enfin tout ça, ça nous est raconté. C'est une histoire à laquelle j'aurais aimé avoir une belle histoire d'amour entre Tom Cruise et effectivement une. En plus, ce que j'ai aimé, c'est une actrice de son âge. Enfin, je trouve ça chouette. En fait, c'est con de devoir le souligner, mais il n'est pas tombé amoureux d'une jeune pilote de son équipe. Donc. Il y avait un côté, elle a des casseroles au cul parce que oui, elle a divorcé, elle élève seule sa fille. Lui, il s'est fait virer de partout. Mais en fait, ils ont le droit à une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Ils peuvent être amoureux, même à leur âge, et faire des trucs cool comme aller faire de la voile et tout ça.
Non, tu l'as dit. je viens de m'en rendre compte.
Mais Sarah. Juste pour terminer sur cette relation, ils ont essayé de la mettre. Elle est patronne d'un bar, elle sait faire de la voile alors que Tom Cruise sait pas. Donc ça, c'est assez marrant parce que pour une fois, alors qu'il est censé être dans la Navy, en fait, il sait juste piloter. Et du coup, c'est assez sympa parce que tu dis, enfin, une femme a un savoir technique qu'un homme n'a pas. Donc ils ont un tout petit peu essayé de pousser ça. Mais à l'arrivée, ça reste vraiment le syndrome Pénélope, quoi. C'est vraiment la femme qui attend que l'homme revienne et qui va avoir le cœur brisé à chaque fois qu'elle va repartir. Et j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça et qu'ils auraient ils auraient dû ajouter quelque chose de plus surprenant à cette histoire d'amour.
En fait, elle est vraiment le faire-valoir de Tom Cruise. Elle est juste là pour lui remonter le moral quand il est déprimé. Et pour lui dire « Hey, mais t'es sûr que t'as pas un super plan ?» Parce que t'es Maverick quand même. Et il réfléchit, il dit « Oui, t'as raison, j'ai un plan. » Et paf, il fait son plan et ça marche. Et en fait, c'est dommage parce qu'elle est vraiment... elle est purement fonctionnelle, cette femme, je trouve. Il manque quelque chose de plus touchant, de plus vrai, de plus gratuit, un peu dans leur relation, au lieu d'être juste... et hop, là, il a un coup de mou, et heureusement, il a renoué avec son histoire d'amour qui le remonte. Enfin, je trouve que c'est... Elle est trop mécanique.
En vrai, tous les personnages sont un peu des faire-valoir de Tom Cruise, et ce, dans tous les films. Armand, ce personnage féminin... Le personnage féminin de l'histoire.
Je persiste à dire que ça aurait dû être sa commandante dans le film. Le personnage de John Hamm, qui est intéressant, mais qui du coup est un énième patron du héros, qui l'engueule tout le temps, mais qui le laisse quand même faire plein de missions. C'est genre, je t'engueule, mais bon, allez, ça passe pour cette fois. Et du coup, ça fait 14 fois que ça passe pour cette fois. Et c'est la dernière. Et du coup, je pense que ça aurait été intéressant de mettre Jennifer Connelly dans ce bot-là, en gardant cette backstory un peu étrange, why not ? Mais du coup, ça aurait été un peu moins la Pénélope.
Ok. Et d'autant plus qu'il y a, enfin, tu l'as dit, Sarah, il y a quand même juste que deux personnages féminins peu développés. Et c'est dommage, je comprends pas pourquoi dans cette armée de gens gradés dans la Navy, il n'y a pas une femme. Ils se sont pas dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Mais même un personnage secondaire, il y en a. Enfin, c'est. Non.
Alors un mot vite fait sur l'équipe que doit entraîner. Il y a deux personnages qui en ressortent spécifiquement. Donc c'est, comme tu l'as dit, Boozer, je crois qu'il s'appelle, qui était le fils de Goose.
Rooster.
Et puis il y a l'espèce de mal-alpha qui a une caricature sur patte, qui dit « Moi je suis le leader, moi je joue au billard comme jamais, moi je suis beau, je suis intelligent, je me tape les meufs et tout ça. » Bon, Est-ce que c'est juste un personnage fonction qui est là pour aider l'intrigue, ou est-ce que vous pensez qu'il y avait une manière d'améliorer ce personnage au hasard?
Alors, il y avait certainement moyen d'améliorer ce personnage, mais je trouve que j'ai l'impression quand même que ces personnages ont été bien choisis pour nous montrer l'ambiance de compétition incessante qui règne dans ce milieu-là, et la course à la performance et au fait d'être juste le meilleur pilote, notamment pour cette mission. Mais même avant d'avoir cette mission, ils sont déjà dans la compétition. Et moi, ce que j'ai quand même apprécié dans ces personnages qui se détestent pendant tout le film et finalement qui réussissent à collaborer ensemble, c'est que, on en parlera certainement tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment d'ennemis dans ce film. En tout cas, les ennemis n'ont pas de visage, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de nationalité, on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît même pas vraiment leur but. Mais en tout cas, bon, on sait que ce sont des méchants avec un grand M, et c'est assez simpliste. Et j'ai apprécié ça, de me dire que l'ennemi est intérieur. L'ennemi, c'est quoi ? C'est de la compétition, c'est le fait de ne pas avoir d'esprit d'équipe, c'est le fait de se tirer entre les pattes, de tirer la couverture à soi, alors qu'en fait, il faut travailler dans la collaboration. Alors bon, ça se règle en allant jouer au ballon sur la plage, mais, mais j'ai apprécié vraiment, au lieu de dire « Ah là là, c'est encore ces sales Russes », enfin, l'ennemi...
C'est sous-entendu que c'est des Russes, quand même.
Non.
Il y a de la neige, il s'habille en gris.
On ne le dit pas, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai vraiment eu le sentiment que c'était complètement accessoire. Les méchants sont accessoires. Ouais. Et ça, j'ai apprécié en fait. J'ai trouvé que c'était mille fois plus intéressant que l'ennemi ce soit le groupe, le fait qu'on n'arrive pas à collaborer, qui pourtant on est obligé de le faire ensemble parce qu'il faut plusieurs avions pour réussir cette mission. Le problème, c'est qu'il faut juste qu'on s'entende.
Donc j'ai adoré ce que vient de dire Marie. Et la seule chose peut-être qui manquait à cette équipe, c'est vraiment de développer un petit peu plus les relations personnelles entre eux et avec Tom Cruise. C'est-à-dire que c'est hyper bien fait entre Tom Cruise et le fils de son ancien coéquipier. Parce qu'il y a toute cette relation de culpabilité, parce qu'il l'a empêché de monter les échelons, il lui a fait perdre des années, donc il y en a un qui veut se venger. Et ça, ouais, ok, il a une relation très personnelle avec lui, et c'est très beau et très payant. Puisqu'il lui sauve la vie, mais l'autre aussi lui sauve la vie. En plus, ils ont mis beaucoup d'humour et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais alors, tous les autres, on ne se souviendra jamais de leur nom. On ne sait pas vraiment quelle relation ils ont les uns avec les autres, d'amitié, d'amour. Enfin, ce n'est pas du tout développé. Et c'est dommage parce que c'était la mission de Tom Cruise, c'était de monter cette équipe. Et donc, à part cette merveilleuse scène où ils jouent tous torse nu sur la plage au football américain, c'est comme ça qu'on fait une équipe. Bah ouais, ils jouent au foot, mais en fait, on ne voit pas comment leur rapport évolue après ce match de foot, ou en tout cas au fur et à mesure de ce qu'ils se prennent dans la gueule, parce que Tom Cruise leur fait faire un entraînement hyper compliqué, mais on ne voit pas comment ça va transformer leur relation. Et c'est un tout petit peu dommage, parce qu'en soi, cette équipe, on a envie de l'avoir plus, quoi. On a envie de l'avoir plus développée, parce qu'elle donne envie, parce qu'ils sont, comme disait Marie, ils sont tous passionnés, ils sont tous talentueux, et c'est peut-être le petit manque.
Alors moi, je me demandais surtout, est-ce que c'est possible d'être pilote d'avion de chasse avec des lunettes? Parce qu'il y a quand même un des personnages, hein, il est là avec ses lunettes, mais je dis, mais attends, mais si il y a une secousse de vent et qu'il paume ses lunettes, alors c'est foutu, il voit plus rien, et la mission, d'autant plus qu'il le sélectionne, hein, il fait partie, ironie du sort, c'est celui qui doit viser en plus.
Oui, c'est celui mec vole avec ses lunettes.
Il vole avec ses lunettes et c'est
il
lui
a pas
qui...
de lentilles.
Exactement, et c'est lui qui doit aller viser précisément le point qui fait 3 mètres.
Oui, c'est assez comique.
Bon, écoutez...
C'est un personnage qui est plutôt réussi, je trouve, celui-là.
Il passe.
Quand au début, sa scène de caractérisation, où il a une petite réflexion, et les autres lui disent, bah, t'es qui toi? T'es là depuis combien de temps? Bah, depuis le début. Et son surnom, c'est son vrai nom.
Bah oui, mais ce que j'ai pas compris, parce qu'ils sont censés venir tous de l'école Top Gun.
Alors oui, alors ça, je suis d'accord qu'il y a un problème d'explication, où en fait... moi, ce que je comprends, c'est que ce sont les anciens élèves, les meilleurs anciens élèves de l'école de Top Gun. Voilà. Sauf qu'ils ont tous le même âge. Donc en fait, ils font quoi? Ils font tous partie de la même promo? Ils viennent de sortir ensemble.
Je pense que c'est ça. Enfin, si, il y en a qui se connaissent, hein, au début.
Ils se connaissent.
Oui, il y en a qui se connaissent, mais il y en a qui se connaissent pas.
Bah, donc, franchement, moi je trouve. Enfin, moi.
On n'a pas l'impression qu'ils ont passé 50 promos ensemble, quoi.
Non, mais ils sont peut-être.
Ils
sont peut-être pas dans la même classe, mais tu vois, enfin, il y a un.
Oui, mais ils ont le même âge. Donc ils sont. Enfin, on sait pas trop. Comment ils ont été sélectionnés? J'imagine que s'il y avait eu des élèves un peu tous... l'élite de ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, j'aurais plus compris la configuration de créer une équipe. Parce que c'est ça aussi, effectivement, on se dit, ben, s'ils ont à peu près tous le même âge, qu'ils ont suivi... Même si les années se sont chevauchées, enfin, ils ont été peut-être pas dans la même promo, mais ils étaient dans la même école au même moment, ça devrait pas être si compliqué de faire un esprit d'équipe. Ils sont tous au même niveau, en fait. C'est ça que j'ai trouvé dommage.
Bon, alors passons à l'intrigue, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, dès le début... Toute cette scène avec Ed Harris, là, où il est sur son... Alors ça commence quand même, le film commence par une espèce de clip show où tu vois juste des avions comme ça sur un porte-avions. Bon, ok.
Exactement l'ouverture de Top Gun 1.
C'est possible.
C'est la même musique qui part au même moment, ouais. C'est le même changement de rythme.
Et juste après, on voit donc le beau gosse en train de faire de la mécanique, exactement comme dans le Jurassic Park, où on voyait Chris Pratt en train de réparer sa moto. Pour montrer un homme viril, il faut qu'il soit en train de réparer un moteur, donc en plus, il est en train de réparer un moteur d'avion, donc c'est encore plus classe. Et puis, il y a toute cette intrigue avec le Mac 10, il faut pousser tout, mais en fait, ça ne sert à rien, parce qu'il développe quelque chose, Adaris lui dit « Non mais les pilotes, ça ne sert plus à rien ». Maintenant, l'avenir, c'est les drones. Donc, moi, je pensais que le film, naïvement, allait parler de ça.
Absolument. Bah, j'y ai cru aussi.
Bah, pas du tout, en fait, non. Le film montre que, bah non, on fait toujours appel aux pilotes. Ils sont toujours aussi bons. J'aurais aimé qu'à la fin, Ed Harris et Guit, ils arrivent à l'entraînement. Enfin, non, mais attendez, c'est pas grave. On a des drones. Et que ce soit finalement des drones qui arrivent et qui aillent faire la mission. Enfin, je n'ai pas compris à quoi servait ces 10 minutes, à part le caractériser comme quelqu'un qui prend des risques.
Oui, ils auraient pu le caractériser sans cette fausse piste sur les drones oui. Qui nous emmène ailleurs et on a du mal à raccrocher, oui.
Mais je pense que c'est un peu lié à leur morale, ou en tout cas c'est oui, l'homme va être remplacé par la technologie. Eh ben non, vous voyez, Tom Cruise, voilà, tant qu'il y a Tom Cruise...
Ce qui compte, c'est pas l'avion, c'est le pilote.
Oui, d'accord, mais je suis d'accord, mais enfin un drone, c'est piloté aussi. Je veux dire, donc du coup, il y a des gens qui pilotent les drones, qui sont dans leur bureau et justement...
Qui sont-ils?
Bah, non, mais justement, ça c'est tout un débat de l'armée américaine qui
drone,
dit...
tu meurs pas quand ton drone il se fait.
Oui, mais justement, ça fait énormément de débats dans la société américaine où c'était un mec qui vivait au Texas, il allait au boulot le matin, il pilotait un drone, il tuait 300 personnes dans un village, puis rentrait chez lui dormir. On me disait, est-ce que c'est vraiment faire ça la guerre? Donc ça, c'est un autre débat. Mais du coup, tout ce qu'un drone peut apporter, enfin, tout ce qu'un avion peut le faire, un drone peut le faire aussi. Donc j'ai pas compris pourquoi. Soit il fallait pas du tout en parler, soit il fallait pas l'aborder au début. Parce qu'il l'aborde au début, il met une piste intéressante, et puis finalement, bah non, ça sert plus à rien.
Ça m'a pas gêné. Je pense que, en effet, c'était thématique. Et c'était pour montrer qu'il y a aussi ce côté has-been, quoi, qu'il est dans un univers qui est en train de disparaître, en fait, comme lui.
C'est The Office, mais version avion de chasse.
D'ailleurs, ça marche bien à la fin, quand il doit piloter un vieux coucou qui marche, on ne sait pas comment.
Ah oui, ça, on ne sait pas comment.
Il n'y a que lui qui peut le faire fonctionner. Ben, ça marche bien. Bah oui, il est vieux. Bah oui, mais il a cette connaissance. Ouais. Et je trouve que ça, c'est bien raccroché. D'ailleurs, j'ai adoré cette fin où... En fait, on reparlera
à la fin plus tard. L'élément qui m'a le plus choqué, moi, c'est que c'est exactement le scénario de Star Wars 4. Quoi. C'est, il faut rentrer dans une espèce de gros bâtiment.
Scénario dans Star Wars 4.
Exactement. Et il dit, il faut rentrer dans un canyon hyper étroit.
Oui, ça, oui.
Il faut aller avancer. Il faut faire un tir hyper précis pour tout faire péter. Et attention, il faut pas arrêter de fléchir. Non, il faut laisser agir. Donc, en gros, utilise la force. Mais comment est-ce qu'on peut réécrire le même film 50 ans plus tard? Non, ça vous a pas choqué?
C'est la même action. C'est la même action.
Exact. Sauf que là, Star Wars, ça, c'est les 10-15 minutes de la fin. Là, tout le film est basé sur ça. Je dis, mais regardez Star Wars, vous l'aurez, votre solution.
Mais je trouve que c'est hyper bien fait. Enfin, c'est en termes d'intrigue de un peu film de casse. Parce qu'ils prévoient, ils font tout le plan de comment est-ce qu'on va détruire la base. Ensuite, ils s'entraînent comme des malades. Et à la fin, on a le vrai moment où ça y est, c'est parti. Je trouve ça, alors ça, vraiment hyper bien fait. Et je trouve que c'est tellement difficile d'écrire des scènes d'action qui sont pas répétitives, où tu comprends qui est qui, à quel moment dans le ciel, etc., alors qu'ils ont les masques sur la tête et tout. Je trouve que tout ça est très très bien mené et en fait un super spectacle.
Et d'écrire des scènes d'entraînement et d'écrire des scènes de répétition d'un cas, c'est rien de plus chiant normalement, et là c'est extrêmement bien.
Parfait que t'aies adoré, Sarah, parce que j'ai plein de questions justement sur ce plan que j'ai pas compris. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ils envoient pas tout simplement une troupe au sol. Il n'y a que des défenses anti-aériennes. Il y a que ça. Non mais déjà, se base, qui a eu l'idée de construire un bunker au milieu d'une espèce de cratère de montagne, là où il y a l'uranium enrichi, donc je suppose que c'est pour construire des bombes nucléaires. Donc ça veut dire que les ingénieurs de ce pays-là, on va les appeler les Russes, tous les matins ils doivent crapahuter, ils doivent monter cette montagne, je sais pas à pied, comment ils doivent descendre. Pourquoi est-ce que vous avez créé un trou là d'ailleurs? Quel intérêt? Ça veut dire qu'à chaque fois vous devez descendre et chercher votre matériel nucléaire. Donc je dis, mais pourquoi vous le faites en avion? J'ai l'impression que ce film essaye de trouver des contraintes, mais... héliporter des mecs, des chasseurs alpins commando qui vont grimper le long de la montagne, qui seraient allés faire péter ce bunker. Il y a zéro garde. Au moment, à l'endroit où il y a zéro garde.
Mais il y a forcément des hélicos et il y a des patrouilles avec des avions. Et tu mets 4 mecs dans cette vallée, il y a un avion qui arrive et c'est terminé pour leur gueule.
Mais d'accord, mais comment ils vont les repérer?
Parce que leur seule force, la seule force qu'ils ont, c'est la rapidité.
Mais la rapidité, c'est parce que s'ils se font repérer, parce que les radars repèrent les avions.
Mais le temps que l'hélico arrive.
Quel hélico?
Les avions. Non, mais pour amener des gus sur place, tu les emmènes en hélico.
Ah non, mais non, tu les déposes au flanc de la montagne et ils grimpent. Tu vas pas les
à quel amener. À quel flanc de la montagne?
Bah n'importe lequel. Je dirais le plus facile à monter.
Mais l'hélico doit arriver à cet endroit-là. Mais non. Il y a des tonnes de radars dans toute la zone.
Tu les amènes plus loin. Enfin,
c'est la rapidité des avions qui fait qu'ils ne sont pas repérés assez vite.
Ou alors j'ai une meilleure idée. Détruisez les systèmes antiaériens. Enfin, je sais pas. C'est venu à l'idée de personne. C'est le seul problème, c'est une espèce de gros missile. Bah détruisez-les.
Il y en a des millions. Après, je voudrais revenir sur la simplicité de l'intrigue parce que moi, ça fait partie des choses que j'ai appréciées dans ce film. C'est que ça ne s'éparpille pas. On a une situation. On a ce mec qui est casse-cou, qui doit apprendre à des jeunes. Enfin, qui doit être formateur, et en fait il apprend à devenir formateur sur le tas. On s'éparpille pas, en fait j'ai apprécié que ça parte pas dans tous les sens et que de cette intrigue il y a un objectif, il y a pas mal de rebondissements, ne serait-ce que sur la formation. Après, la mission en elle-même, il y a des rebondissements insoupçonnés aussi, et j'ai trouvé ça très appréciable parce que en fait la situation, je trouve, elle est filée jusqu'au bout.
Et lesquels?
Bah, par exemple, il y a tout un plan pour détruire la piste. Bon, bah, manque de peau, après, c'est leur seul moyen de repartir. Enfin, ça, j'ai trouvé ça malin. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à un moment, donc, Tom Cruise se retrouve seul, largué en territoire ennemi, et t'as envie de dire, oh, il va pas faire du Tom Cruise, ou en fait, il va tuer tout le monde, il est trop fort. Non, c'est juste un galérien. Le seul truc qu'il sait faire, c'est de piloter et réussir à le faire.
Trop tard. Non, mais déjà, j'ai même pas compris pourquoi ils envoient que 4 avions. Je veux dire, c'est une mission hyper risquée. Pendant les simulations, ils se sont vautrés partout. Si on a un qui s'écrase et meurt, bah t'en envoies 8 ou 10. Comme ça, s'il y en a un qui s'écrase, la mission continue.
Pourquoi? Je pense que plus ils sont nombreux, plus ils ont de chances de se faire repérer.
Mais absolument pas, puisqu'ils sont coincés dans le canyon. Là, vous êtes fait avoir pendant le scénario. Le but,
mais on s'en fout.
Mais non, on s'en fout pas. Guillaume. Mais non, on s'en fout.
Mais dans ce cas-là, tu prends le premier point qui va pas et tu détruis toute l'intrigue d'un coup.
Bah, évidemment, cette intrigue ne tient pas.
Il y a des choses intéressantes à raconter sur ce.
Non, mais je suis d'accord. Mais là, on est pour prendre les scénarios. À chaque fois, je dis ça, je dis mais attends, mais déjà qui est le con qui a construit une base nucléaire où l'entrée est en haut d'une montagne? Déjà, ça de base, apparemment, il n'y a aucune autre sortie. Hein.
Pour moi, c'est le seul point qui fait un peu James Bond, un peu les hommes
indestructibles. Clairement, exactement. Merci.
Mais passer ce détail-là, à partir du moment où tu l'acceptes, franchement, tout le reste, franchement, c'est des points de détail.
Ah bah oui.
Il y a bien pire dans un milliard d'autres films d'action qui sont plus crédibles que celui-là.
Mais je suis d'accord. Enfin, moi, ça m'a dérangé. Je lui dis, de base, j'ai l'impression, oui, je pense qu'il y avait mieux à faire
tu t'ennuyais tellement.
Mais je me suis
mais
dit...
Accepte.
Mais accepte. Mais mais
prends le truc comme il vient. Ok, c'est nage. J'ai fini de parler.
Et puis alors, pareil, là, Marie, mais comment t'as pu aimer, là? Il se retrouve en territoire ennemi. Je me suis dit, ah d'accord, il va galérer, il va courir. Non, il va dans l'aéroport qui a été bombardé, qui est en alerte. Personne les voit. Et là, putain, coup de peau, ils trouvent un avion abandonné où il y a le plein.
Ils sont habillés pareil.
Mais ils sont habillés pareil. Ils ont leur uniforme américain.
Mais personne peut s'imaginer qu'ils vont retourner dans la gueule du loup pour prendre un avion qui est impilotable.
Mais qu'est-ce qu'il fait là,
pour s'enfuir sur une piste pleine de trous? C'est ça que je trouve passionnant.
Et t'as retrouvé ça passionnant aussi qu'ils trouvent un avion où il y a le plein, où tout est chargé, la batterie est faite. Apparemment, c'est un vieux coucou qui est pas là, parce qu'apparemment, les ennemis ont des avions de 5e génération. Non, mais c'est vrai, ils nous disent, eux, ils ont des avions hyper perfectionnés, nous, on n'a pas. C'est l'armée américaine, c'est bizarre. Enfin bon, allez, admettons. Il y a un vieux coucou qui est complètement branché, qui est opérationnel pour partir. Non, mais attendez.
Je pense qu'en fait, on essaie d'analyser ce film sur la cohérence et le réalisme.
Ah.
C'est-à-dire, ce n'est pas l'objectif de ce film. L'objectif de ce film, c'est de proposer un grand spectacle avec des grands moments de bravoure pour les héros, dont Tom Cruise, évidemment. Et du coup, oui, t'as envie qu'il retourne en plein milieu des méchants, et parce qu'il y a une scène un peu comédie, parce qu'en fait, ils sont habillés pareil, donc ils les voient pas, c'est hyper dangereux. Et bien sûr que c'est un énorme Deus qui est un avion que Tom Cruise sait conduire. Bon, après, ils font le plein, donc ils rajoutent quand même un petit peu de conflit. Mais dans l'absolu, c'est parce que t'as envie qu'ils y arrivent, c'est drôle, t'es à fond dans le film, etc. Tu t'interroges pas sur, pendant tout le film, sur pourquoi est-ce que cette base est en haut d'une montagne. Tu es le seul à t'être posé cette question.
D'accord, donc il y avait le Ta gueule, c'est magique. ta gueule c'est quantique et maintenant ta gueule c'est actionnique quoi.
Oui,
c'est de l'action donc on
mais parfois bah, l'effet non. est plus important que la justification.
Et finalement, ça m'a sorti du film. Ouais. Pendant tout le long, je me suis dit, mais qu'est-ce que fait que cette base? Qu'est-ce que fait que cet avion-là? Et puis, il y a deux énormes déous sur la fin. Je veux dire, au moment où il y a l'hélicoptère qui va le tuer, eh non, il y a Boozer qui arrive avec son avion. Et quand il y a l'avion Génération 5 qui va le tuer, eh non, il y a le Mal Alpha qui arrive, qui vient les sauver. Non, mais
oui, alors,
y a,
ils
non,
se mais, sauvent vous tous savez un pas peu. Mais oui, mais la thématique, c'est quoi?
Et dites-moi que c'est bien
le
écrit,
groupe,
ça.
C'est la collaboration.
C'est un million de fois mieux écrit qu'énormément de films d'action.
Attends, t'es en train de sous-entendre que les méchants, c'est pas un groupe. Parce que ça se trouve, ils étaient extrêmement unis.
Ils ont tous atteint leur trajectoire émotionnelle, c'est de se sauver les uns les autres, de se sacrifier les uns pour les autres.
Personne ne meurt
dans le groupe. Mais oui, mais en fait, ils réussissent. Enfin, alors, je suis d'accord que quand le blond, le mâle alpha revient à la fin pour les sauver, tu te dis waouh, quand même, ils ont eu beaucoup de chance. Ça s'est joué à une seconde près que quelqu'un vienne les sauver. Mais ça s'inscrit totalement dans la trajectoire émotionnelle de ce personnage et dans la thématique du film. Donc en fait, moi, je l'achète quand même. Enfin, je suis heureuse que ce personnage ait retrouvé la raison et que finalement, il fait sa rédemption. Mais bien sûr, c'est la rédemption de ce personnage. Et moi, je l'apprécie.
C'est la rédemption de quoi? On ne sait même pas s'il a été autorisé à décoller ou pas.
Oui, mais c'est comme...
Le chef, la Mad Men, dit... Personne ne va les sauver, il y en a deux qui désobéissent. Ok, bah apparemment, tout le monde s'en fout. Je veux dire, le principe c'est non, Maverick, faut pas faire ça. Et maintenant que Ice est plus là, tu vas être dans la merde, donc maintenant on désobéit plus, tout le monde désobéit, conséquence zéro.
La conséquence c'est qu'ils ont réussi la mission qui était impossible.
Donc c'est mission impossible en fait.
Tu regardes Top Gun et tu analyses ça comme si c'était
la
loi du marché.
Mais c'est pas ça, mais tout film d'action peut être crédible.
Mais
et
pas
peut...
du tout.
Mais bien
pas
sûr
du
que
tout.
Si.
Quel film d'action est crédible.
Je n'ai pas dit que les scènes d'action.
Jurassic World.
Mais je n'ai dans deux semaines, je n'ai pas dit que les c'était pas un bon film d'action. J'ai dit que on peut faire mieux. On n'est pas obligé de foutre. L'objectif des personnages au haut d'une montagne inaccessible.
Ok, alors si on veut parler des points de scénario constructif, je pense qu'on pourrait par exemple discuter de la scène d'exposition où Tom Cruise il est au bar en train de rien faire et pendant ce temps-là il écoute, alors d'ailleurs on ne sait pas s'il entend vraiment, tous les personnages secondaires se présenter les uns aux autres et raconter leur backstory. Bon, ben là par exemple, je pense que je vais pouvoir passer la parole à Armand, mais c'est
une
vraie scène d'exposition.
C'est extrêmement long.
Dommage, ça aurait pu être un peu mieux.
J'attendais au comptoir. J'attendais ma bière, je veux dire, c'était insupportable.
C'était long, ouais.
Cette scène n'est pas intéressante. Les personnages sont pas intéressants du tout à ce moment-là. Ils sont en train de. C'est bonjour, je suis le stéréotype du binoclard qui va pas. Bonjour, je suis le stéréotype du mec qui roule des mécaniques devant tout le monde. C'était à mourir d'ennui. Couper cette scène immédiatement.
D'autant qu'il y a beaucoup de scènes d'action, de mise en situation par la suite par
Tom
Cruise
qui
caractérise
persos, ouais.
Très bien et qui aurait été tout aussi efficace. Enfin, on aurait pu mettre beaucoup de choses de cette scène d'exposition. Parce que la scène. J'ai adoré les scènes où il dit non, mais bien sûr que je vais y arriver. Et bah, si tu n'y arrives pas, tu feras 200 pompes. Et paf, tu les vois, ils font 200 pompes. Ouais. Et en fait, ils les font tous et ils sont tous en galère. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je trouve bien fichu dans cet entraînement. Et donc, il aurait fallu aspirer cette scène d'exposition dans...
La faire aussi courte que dans le premier, où le premier, c'est une scène de dragouille de face à Kelly McGillis, mais elle dure 2-3 minutes.
Mais je pense que ce qu'ils ont voulu faire, et ça échoue, c'est ils le bizutent un peu, c'est-à-dire qu'ils savent pas que c'est leur futur capitaine instructeur, et du coup ils se retrouvent tous à le porter sur leur dos et à le jeter du bar. Et le lendemain c'est voici votre capitaine instructeur, et ils font ah non c'est le mec qu'on a bizuté. Mais en fait comme il y a aucune conséquence, qu'il y a rien, que ça change pas du tout leur relation à Tom Cruise, ça tombe à l'eau.
Et que c'est dilué, on l'accepte.
Et que c'est dilué parce que la scène est interminable encore une fois. Dans le Top Gun le premier il y a cet effet là parce que Tom Cruise drague Kelly McGillis mais comme un connard en fait, il fait du sale en plus. Elle lui dit non, elle l'humilie et le lendemain, cut to, bah c'est son instructrice de vol et là comme un débile. Mais ça c'est plié en beaucoup plus de temps.
C'est un principe du scénario mais là où je suis là.
Comme le disait Sarah tout à l'heure, ce qui manque quand même beaucoup c'est quelle est la relation de Tom Cruise avec ses élèves chacun personnellement, parce que là il a de relations qu'avec un seul, et ça aurait été l'occasion, cette scène de bizutage, ou en tout cas les premières rencontres entre Tom Cruise et ses élèves, amorcer des relations très différentes avec chacun de ses élèves. En fait, par exemple, celui qui a des lunettes, qui est un peu un tocard, mais il le choisit quand même à la fin. pourquoi le choisit-il? On aurait aimé qu'ils se disent peut-être qu'il croit pas beaucoup en lui au début et puis il change d'avis, ou alors c'est le seul qui croit en lui à l'inverse de tous les autres. Enfin, en tout cas, pourquoi a-t-il misé sur ces quatre à la fin? Je pense qu'il y avait certainement quelque chose à filer dès le début et dès en fait leur première rencontre sur est-ce que il est clairvoyant ou est-ce qu'au contraire il va changer d'avis, enfin, et tout ça.
Alors à mon avis, ça, dans la version longue, il va y avoir énormément de scènes coupées où il y a la réponse à ce genre de questions. Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis pas d'accord avec vous parce que vous dites mais faut se laisser emporter par le film. Mais c'est un film qui se veut ultra réaliste. Je veux dire, apparemment, c'est même Tom Cruise qui a volé lui-même. Apparemment, les mecs d'avion, ils ont extrêmement bien respecté le moteur des avions, de comment ils tournent. Tout. C'est un film qui se veut réaliste. Après, je trouve ça dommage de faire une intrigue aussi James Bondesque dans un film comme ça. Dans un film, soit tu fais n'importe quoi avec des James Bond où il a une voiture volante et puis tire des lance-flammes dans sa montre et tout, et on est dans un monde fantasmagorique. Là, c'est un monde quand même lié dans le réel. Et dans un monde lié dans le réel, bah, tu peux pas faire une intrigue aussi déconnectée du réel.
Alors, c'est pour ça que moi, je trouve que l'intrigue principale de ce film, elle est très réaliste, c'est la conception d'un groupe.
Et donc, il suffit d'aller jouer une fois sur la plage et puis c'est bon, quoi. Parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'il arrive à lier le groupe. Hein. Parce que vous avez remarqué aussi qu'il n'y en a pas un seul qui réussit l'entraînement. Pas un. Et pourtant, ils font l'entraînement au football américain. Et après, c'est bon. Et roule ta bille, tout le monde réussit. Ah bon? Bah, c'était pas si compliqué que ça, en fait. Fallait commencer par ça. Si c'était une histoire de groupe, je vois pas encore, en étant lié comme groupe, ça va en faire des meilleurs pilotes.
Donc
qui
tu
vont
as
réussir.
Détesté.
Non, j'ai pas détesté.
Si,
non, mais quelque chose pour en revenir sur Rebelle. Alors, apparemment, vous, ça vous a pas choqué? Il passe son temps à faire de la moto sans casque, ce brave garçon.
Oui, ça, c'est normal.
Ah, c'est normal.
Oui, parce que Tom Cruise, il a dit que c'était normal qu'il fasse de la moto sans casque, parce que sinon, comment les spectateurs allaient-ils voir que c'était lui?
Ouais, d'accord, mais et du coup, quand il ramène sa meuf, là. Pareil, sans casque, il n'y a pas de flic dans cette ville.
Il n'y a jamais de casque.
Et alors, quelque chose que je n'ai pas compris, parce que sa meuf a une Porsche, donc. Du coup, on peut supposer qu'il va en boulot avec. Donc, quand il la ramène en moto, il y a sa Porsche qui est chez elle. Question, comment va-t-elle au travail, alors, cette femme? Non, mais c'est de l'action, c'est dans le film, on ne doit pas se poser la question.
Qu'est-ce qui se passe quand tu vas au cinéma?
Quand je vois ce genre de choses, je dis, mais attendez,
c'est un festival de faux raccords et de...
Mais c'est pas un faux raccord, c'est un problème d'écriture, ça.
Oui, alors justement,
choix d'écriture, c'est pas des problèmes d'écriture.
Comme on reparle de ce personnage féminin, ce que j'ai trouvé un peu dommage aussi, c'est qu'il y a au moins deux fois, il y a des scènes où on les voit parler, il y a de la musique, on sait pas ce qu'ils se disent. Donc c'est un peu, regardez ces scènes de complicité, d'intimité, c'est les retrouvailles. Bah c'est dommage, en fait, on aurait bien aimé savoir de quoi ils discutent. Ouais. Pour avoir un peu de chair à ce couple, en fait.
Je suis totalement d'accord, on ne voit pas leur complicité. On ne voit pas en quoi c'est un couple qui est unique. Et qui partagent vraiment des objectifs, des délires, on voit pas leur complicité.
On voit pas pourquoi ils réparent les erreurs du passé et comment cette fois-ci ce sera différent.
Alors surtout justement, j'allais en venir à ça. Donc du coup, il y a cette histoire d'amour qui se met ensemble. Ils jouent au jeu de chat la souris en disant non, cette fois je retomberai pas, tu m'as déjà trop fait mal. Bon, ils finissent par coucher ensemble. Il y a cette scène qu'on a vue mille fois où il sort par la fenêtre et puis il tombe sur quelqu'un qu'il fallait pas le voir. Et il dit, s'il te plaît, brise pas le cœur de ma mère. Ok. Il fait la mission. Il va dans le bar. Il y a un vieux qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs, qui est là, qui apparemment bosse encore à 90 ans.
C'est
merci.
Vrai, il s'appelle Michel.
Michel. Non, je sais plus, il a un nom qui finit en I. Donc merci les États-Unis, on continue de bosser à 90 ans. Il dit, où est-ce qu'elle est? Le mec répond, elle est au bateau avec sa fille. Il fait, ah ouais? Scène d'après, il est rentré chez lui. Non mais tu te fous de ma gueule, t'as dit 20 minutes avant que tu l'abandonnerais plus jamais, quoi. Et visiblement, il vit pas à côté parce qu'elle vit à côté de la mer, lui vit au milieu du désert. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle attend qu'elle vienne avec sa petite Porsche pour aller. C'est, ah tu me veux? Bah va venir me chercher. Non mais Marie, toi qui es ma spécialiste du féminisme, t'as pas pu passer à côté de ça quand même.
Alors, ce que je trouve, je me suis dit, moi, qu'elle était partie en croisière, en fait. Elle a dû partir plusieurs jours en bateau. Elle n'a pas fait...
C'est ce qu'il dit.
Elle n'a pas dit quand elle reviendrait.
Elle n'est pas partie une heure. C'est juste... Voilà.
Donc, il fait rater l'école à sa fille, qui est en plein examen, apparemment.
Point de détail.
Réécrivons le film avec Guillaume. Il n'y a pas un avion qui décolle. Attendez, votre autorisation de vol.
Mais c'est drôle que tu reparles de ce vieux, parce que bizarrement, moi, j'ai bien aimé ce moment dans le film. C'est-à-dire qu'il arrive, on s'attend nous aussi à trouver cette femme. Eh ben non, elle n'est pas là. Elle s'est cassée, Tom Cruise. Elle ne t'attend pas. Tu vois. Encore une fois, ils ont essayé de faire quelque chose.
Mais
et tu vois le vieux,
après,
et j'étais surprise. Oui, elle revient, évidemment.
Il faut un happy end final.
Ouais. Mais ils ont essayé.
Ça aurait été intéressant qu'ils la rejoignent avec un bateau, alors qu'ils galèrent. Oui. Complètement, et que après avoir été si brillant en
ça,
vol,
ça une bonne idée, ça.
Il soit en galère en bateau,
il
mais
se
bon,
lance et il
le fait par amour.
Oui, à la toute fin, ça, j'avoue, ça aurait été génial. Beaucoup mieux que ce qu'elle arrive avec sa Porsche et qu'il se fasse un bisou en bas de son avion. C'est une bien meilleure idée, en effet, qu'ils se disent bon, bah voilà, c'est moi qui vais aller la reconquérir. Mmh. Et j'y vais en bateau,
alors
je connais rien.
Au péril de ma vie.
Et c'est bien plus dangereux d'aller faire une heure de bateau que cette mission suicide.
Je sais pas nager.
C'est vrai que, honnêtement, ça m'aurait bien fait marrer qu'ils meurent dans un accident de moto. Et ils ont pas de casque. Et tu sais, ça cut, et puis il fait bon, bah, Maverick est mort, le crâne écrasé, alors qu'il a survécu à des Mac 10. Personnellement, ça m'aurait fait marrer. La thématique, ce film, apparemment, vous êtes extrêmement clair sur ce que c'est. Alors, je te laisse la parole, Marie. Que dit ce film ? Est-ce qu'il faut jouer au football américain pour faire un groupe ? Est-ce que vous voulez que nous, on joue au football américain pour devenir les meilleurs scénaristes ?
Pour moi, la thématique, c'est que pour qu'une mission réussisse, il faut la collaboration d'un groupe. Et aussi, c'est sur la transmission et accepter de passer le flambeau et d'être maintenant instructeur et plus au cœur de...
Pas du tout. Enfin, il réussit la mission à lui tout seul. Il passe le flambeau de quoi ? Tout le film nous dit, les jeunes sont jamais aussi bons, c'est que toi. C'est Dieu sur Terre, il l'a fait quasiment toute seule, cette mission. Tu peux pas dire que c'est une transmission, c'est pas vrai.
Non, mais il y a un truc très beau, c'est le côté que finalement l'homme est plus important, enfin que c'est lui qui va déterminer, enfin c'est lui qui compte, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui, de ses tripes, etc. Plus que finalement ce qui va, l'avion qui va piloter.
Mais ça encore, c'est
plus
pas vrai.
Plus que la technologie autour de lui. Et...
Mais c'est pas vrai, il allait se faire bolosser par l'avion de 5e génération si quelqu'un n'était pas venu le sauver. Bon pilote ou pas.
Ils ont bolossé les avions de 5e génération.
Ah, mais à la fin, quand il a le MiG complètement détruit, s'il était un si bon pilote,
oui,
il aurait dû gagner tout seul.
Après avoir détruit 19, oui, le dernier le chope. Oui, c'est sûr, il a plus de missiles et plus de flares, oui, c'est sûr.
Et c'est un peu, alors je sais pas, il y a quand même une thématique un peu sur le pardon, enfin sur la réconciliation entre donc Tom Cruise et les deux doivent se pardonner, pareil avec sa femme. Donc je sais pas, je trouve que les thématiques sont assez belles, assez universelles. Elles portent bien le film.
Très bien, tour final sur ce film, Armand.
Disons que, est-ce que je peux me permettre une comparaison avec le premier ?
J'adore les comparaisons avec les premiers.
Je trouve que dans le premier, le réseau de personnages est mieux gaulé, mieux bouclé, plus simple. Alors oui, c'est les années 80, donc tout est ultra. Enfin, on est vraiment prêt. Voilà, on est patriarcat à fond. Mm-hmm. Mais je trouve que voilà, le niveau des personnages c'est mieux gaulé. Par contre, je trouve que l'intrigue, on va dire action, le côté spectaculaire est quand même poussé au maximum dans le deuxième. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut le voir au cinéma, quitte à rigoler comme Guillaume de toutes ces incohérences.
Mais j'ai pas rigolé, j'étais énervé. Marie.
Oui, alors je trouve aussi que c'est du vrai grand spectacle. Moi, j'ai été emportée par ces scènes d'action que j'ai trouvées d'une incroyable lisibilité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait qui est qui, dans quel avion. On ressent beaucoup d'émotions alors qu'ils sont en train de piloter des avions. Et ils le font quand même pendant 50% du film. Et contrairement à pas mal de films où des fois, tu es juste spectateur de plans magnifiques, spectaculaires, mais tu ne vis pas vraiment les choses. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi le parfait équilibre entre la scène d'action très spectaculaire et l'émotion du personnage. On est quand même au plus proche des personnages, alors avec aussi des défauts, il manque de caractérisation, tout ce qu'on veut, mais on est vraiment près d'eux. Et moi, je me suis vraiment laissée emporter par ce film, ouais.
Très bien, Sarah.
Pareil, je me suis complètement laissée emporter, je me suis pas ennuyée une seule seconde, c'est très spectaculaire, et en plus je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, et que ça participe vraiment au fait qu'on passe un super moment, et j'ai jamais aussi bien compris la mission qui devait être accomplie par les héros, et c'est franchement assez rare dans un film d'action. J'ai hâte qu'on parle de Jurassic World encore une fois. Non, là c'était très lisible et c'était.
Attends, heureusement que t'as compris la mission. Il la répète pendant une heure et demie.
Je trouve que c'est un des points forts de ce film. C'est la cohérence, la simplicité de l'histoire. Et après, on prend ça et on y va à fond. On milk cette histoire au maximum.
Bah écoute, moi ça va vous surprendre, mais j'ai beaucoup aimé.
Non,
honnêtement, j'ai trouvé ça moyen. Alors les scènes d'action sont cool, heureusement, parce que, ouais, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement lisible. Les combats d'avion sont cool. Les méchants sont caricaturaux, mais j'étais venu voir ce film pour des scènes d'action, j'ai été servi. Là, il fait le bilan. Enfin, le reste du film, quand même, c'est à se taper sur le front tellement c'est débile, quoi. Et je pense qu'en tant que spectateur, on peut mériter mieux. C'est pas, j'entends vos arguments, je suis pas d'accord avec, ils disent, mais oui, mais faut se laisser emporter. Oui, mais à ce moment-là, on se laisse emporter partout, et puis on s'en fout, quoi. Jurassic Park World, je vais dire ça. Oui, mais laisse-toi emporter, c'est des dinosaures, tout va bien, je te dirai ça, tiens, dans 2 semaines. Du coup, non, on mérite mieux, on mérite mieux que ce scénario qui est quand même assez convenu. La mission, c'est Star Wars 4, c'est les 20 dernières minutes de Star Wars 4 portées sur 2 heures. Les méchants sont quand même un peu cons, excusez-moi, ils laissent un MiG chargé qui a fait le plein, il a juste appuyé sur décoller. C'est comme s'il avait marqué enfuis-toi, appuie là et tu t'enfuis. Les personnages sont pas développés, il y a des scènes beaucoup trop longues comme on avait dit avec dans le bar. Je trouve que leur histoire d'amour est maltraitée sur la fin. Il y a quand même énormément de défauts dans ce film. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fait avoir par les scènes d'action qui sont cool et vous êtes laissé emporter, vous êtes laissé envoler
parce
par le scénario.
Parce que c'était bien fait.
Mais oui, non, mais d'accord, mais enfin.
Avait peur pour les gens. Non, il y a tellement films d'action, on n'a pas peur okay. pour les
Non, mais attends, tu vas pas me dire que tu as eu peur pour Tom Cruise à un oui. n'importe quel moment.
Bien sûr que si, j'ai
film.
Peur pour Tom Cruise. Si, mais justement.
En fait, on s'attache quand même. C'est ça qui est bizarre, c'est que les personnages ne sont pas très caractérisés et pas hyper développés, mais on s'y attache beaucoup. Et ça, c'est quand même fort. Donc, après, peut-être que toi, tu t'es senti extérieur parce qu'il y avait trop d'incohérences selon toi. Mais en fait, quand.
Ça t'a sorti du film.
Alors, il y a une bonne surprise, c'est que moi, je pensais qu'il y en avait quand même un ou deux qui allaient mourir. Personne ne meurt dans ce film à part le mec de son cancer. Voilà, c'est donc le vrai méchant de cette histoire, c'est le cancer. Allez, morale de cette histoire. On va passer à la recommandation, c'est moi qui vais la faire. J'aurais adoré qu'on fasse Doctor Strange 2, parce que voilà un film bien écrit, voilà un film avec des enjeux, voilà avec des... Mais bon, apparemment, les gens qui font le podcast avec moi préfèrent aller voir Top Gun.
Et le mec en cap qui passe dans quatre dimensions en même temps, il n'y a pas
c'est
de problème.
C'est de la magie, à partir du moment où tu as la souhait de magie. Alors, ce film a plein de problèmes aussi, mais c'était... Ah. Tellement cool. Voilà, enfin un Marvel où c'est exactement ce que vous disiez pour Top Gun. On est là pour l'action. L'action est magnifique. Évidemment qu'il y a des énormes points noirs de scénario. Évidemment qu'il y a des choses pas logiques. Mais en tant que plaisir de spectateur, j'ai l'impression que j'ai ressenti autant de plaisir de spectateur à voir ce Doctor Strange 2 que vous à voir Top Gun. Donc, j'espère qu'on le fera dans les rattrapages à la fin de l'année, si on fait le top flop et qu'il y en a qui l'ont vu. J'espère. Enfin, je sens que je vais être le seul à voter encore pour ce film à la fin de l'année. On s'arrête là. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode.